Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Nadège Azaz, maire socialiste de Châtillon, conseiller régional d'Île-de-France et porte-parole de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo. Bonsoir.
Bonjour Loïc.
Alors Nadège Azaz, Anne Hidalgo, la candidate du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, est entourée de maires comme vous. Ce sont eux qui animent sa campagne. Pourquoi une équipe de France des maires autour d'Anne Hidalgo ?
Alors je crois que les maires sentent les pouls de leur territoire. Vous savez, le maire demeure la personnalité politique préférée des Français parce que il est évidemment à proximité, il est à l'écoute. Le président Chirac disait souvent que le maire était à portée de claque, mais je crois qu'il est aussi à portée de sourire. Il est confronté au petit bonheur comme au grand malheur. C'est un thermomètre de nos territoires, un thermomètre de nos habitants. Et c'est vrai que cet ancrage qui manque d'ailleurs hein, au président de la République actuelle, Emmanuel Macron, et à ceux qui l'entourent, fait que nous sommes totalement en accord avec les aspirations de nos populations et nous savons également enfin répondre à leurs besoins. Nous le faisons au quotidien, on l'a vu à travers notamment l'épisode de crise sanitaire. Donc je crois qu'il était important pour Anne Hidalgo qu'elle puisse effectivement s'entourer eh bien d'une équipe de personnes qui grâce à ces ancrages sont aussi en capacité de représenter la France dans son altérité, parce que nous ne sommes pas tous élus des mêmes zones. Il y a évidemment des élus de zones périurbaines, des élus ruraux, des élus comme moi qui suis élue de Châtillon dans les Hauts-de-Seine, beaucoup plus urbains, mais en tout état de cause ça nous permet aussi de converger sur un certain nombre eh bien de besoins qui sont récurrents. On l'évoquera tout à l'heure sur les questions eh bien de rémunération, de salaire, de dignité, de sécurité également. Et ça nous permet vraiment aussi de porter des discours qui sont spécifiques par rapport à nos habitants.
Alors j'aimerais justement qu'on parle des premières propositions d'Anne Hidalgo, Nadège Azaz, la maire de Paris, candidate du Parti Socialiste, souhaite en premier lieu une feuille de paix digne pour chacun. Comment augmenter le salaire net des Français ? Est-ce que ça passe par une baisse des charges ou bien elle va demander aux entreprises de faire ces augmentations branche par branche ?
Alors je crois que le point essentiel et sur lequel nous devons absolument être intransigeants, c'est que les Françaises et les Français ont droit de pouvoir vivre de leur salaire. Chacun doit disposer d'une rémunération digne. Il n'est plus entendable que des gens qui travaillent tous les jours, durement, laborieusement, ne soient pas en capacité de boucler leur fin de mois, qu'ils soient obligés pour certains eh bien de se refuser des petits plaisirs, qu'ils ne puissent pas accéder aux loisirs, qu'ils ne puissent pas accéder aux vacances, et pour certains même que ce soit même difficile enfin de faire les courses, de payer leur loyer. Je vous en parlais en début d'entretien. En tant que maire, on est quotidiennement confronté à ce type de situation. Il y a une paupérisation d'une partie de la classe moyenne qui a été aussi renforcée par la crise. Donc oui, nous l'affirmons, chacun doit pouvoir disposer d'une rémunération digne. Dès le lendemain de l'élection présidentielle, si Anne Hidalgo est élue présidente de la République, il y aura une grande conférence sur les salaires qui sera organisée en lien avec les partenaires sociaux, parce que ce sont aussi les corps intermédiaires qu'il faut remettre au centre de ce dialogue-là. Ce sont évidemment les syndicats qui peuvent faire remonter les aspirations branche par branche, où il peut y avoir aussi une équité dans le traitement des uns et des autres. Il doit y avoir vraiment une prise de conscience de toute la société, j'ai même envie de vous dire une prise de conscience républicaine sur cette notion de dignité dans la feuille de paie. Quand on voit que les professions à forte utilité sociale, comme les infirmières, comme les aides-soignants, comme les travailleurs sociaux, mais les enseignants, quand on voit les policiers, quand on voit leur rémunération, on se dit effectivement pour un pays comme le nôtre, qui est la cinquième puissance mondiale, lorsqu'on voit notre classement, par exemple, au niveau du salaire des enseignants, et qu'on se compare aux autres pays de l'OCDE, oui, effectivement, il y a une problématique. Donc, il doit y avoir des hausses de rémunération. D'ailleurs, ce sont des choses qui ont toujours été portées par la gauche, hein, dans les accords de Matignon en 1936, je vous parle du Front populaire, mais on était déjà sur la rémunération immédiate pour les ouvriers. Vous avez évidemment toutes les questions autour du SMIC, que là aussi, il faut revaloriser. Donc, je crois que il faut qu'on puisse travailler là-dessus. Il faut aussi qu'on puisse entendre les entreprises et notamment les patrons des TPE et PME. Mais je crois que ça renforce aussi une forme d'attractivité que de se dire que nos salariés peuvent être bien rémunérés. Quand on parle aussi enfin du salaire des fonctionnaires, hein, je vous évoquais les professions à utilité sociale, c'est aussi se dire que le point d'indice, il est gelé maintenant depuis des années et que les salaires des fonctionnaires n'évoluent pas. Oui, il y a un moment donné, alors que le coût de la vie, lui, évolue, alors que l'inflation fait eh bien que nous assistons aussi à une hausse des prix. Et vous avez vu avec le prix de l'énergie, avec le prix de l'essence, comment est-ce que les Français, aujourd'hui, sont en capacité de vivre dignement? C'est ça la question qui est derrière.
Nadège Azaz, Anne Hidalgo fait aussi une proposition sur le logement. Jamais plus d'un tiers des revenus ne doit être consacré au logement. Comment permettre aux personnes, justement, qui ont un petit salaire, qui n'ont pas de garant parfois, de pouvoir tout simplement se loger? Vous qui êtes maire, vous êtes confronté à cette situation au quotidien.
J'y suis évidemment confrontée sur le territoire de ma commune de 40 000 habitants. Nous avons 1500 demandeurs de logement châtillonnais parce que il y a pour beaucoup la nécessité aujourd'hui de se loger justement dans le logement social parce que les loyers dans le privé sont excessivement chers dans un certain nombre de zones. Donc ça passe déjà par l'encadrement des loyers. Je crois que cette spéculation autour du prix des loyers, elle doit cesser. Elle doit cesser parce que là encore, on est sur des questions de dignité. Et puis, évidemment, c'est la construction de logements qui doit être relancée, notamment sur les questions de logements sociaux. Aujourd'hui, on ne construit plus des logements sociaux comme on les construisait dans les années 60. Donc, il faut sortir aussi de ce schéma qui est très manichéen, de grandes barres, etc., etc. Et par ailleurs, aujourd'hui, les classes moyennes, de par leurs conditions de rémunération, sont aussi en grande majorité demandeurs de logements sociaux. Donc, comment fait-on pour répondre à toute cette demande? Il faut relancer ce secteur. On voit à quel point le précédent gouvernement s'est attaqué, en fait, à travers les bailleurs sociaux, à travers les maires bâtisseurs. On voit à quel point ils se sont attaqués aussi à ces constructions-là. Il y a eu des attaques clairement sur la question des APL. Il y a la nécessité, là encore, qu'est-ce que c'était, mais médiocre, d'aller baisser de 5 euros les APL, quand parallèlement on supprimait l'impôt pour les plus riches, à savoir l'ISF. Donc là aussi, les APL doivent être réévaluées. Ce que je vous ai dit, c'est l'encadrement évidemment des loyers dans les zones qui sont tendues. Et puis il faut aussi accompagner les maires qui souhaitent dans leur territoire pouvoir bâtir et certainement pas les punir. La région Île-de-France aujourd'hui, qui était sous la mandature de Jean-Paul Huchon aussi un grand financeur en fait de programmation de logements sociaux, a totalement fait volte-face en supprimant toutes les aides pour les maires dont les communes avaient déjà plus de 30% de logements sociaux, mais sans influer sur ceux qui ne respectent toujours pas la loi SRU et qui n'ont toujours pas les 25% de logements sociaux. Voilà, on pourrait par exemple conditionner un certain nombre de subventions à la nécessité de respecter cette règle. Donc ça doit être un cheminement commun, mais c'est ce que je vous disais, on est aussi là dans une question de dignité. En Île-de-France, on a plus d'un million, de nos concitoyens qui sont en situation de mal logement.
Nadège Azaz, j'aimerais qu'on parle d'une proposition d'Anne Hidalgo sur la petite enfance. Faire garder ses enfants, c'est très compliqué, par exemple pour une femme seule, c'est un sujet très concret. Est-ce que c'est à l'État de trouver des solutions ?
Je pense que l'État doit évidemment s'engager sur les questions de petite enfance en créant, c'est ce qui est proposé dans le programme de Anne Hidalgo, un véritable service public de la petite enfance qui aujourd'hui n'est pas reconnu en tant que tel. Il n'y a pas d'obligation, vous savez, dans les villes, de mettre en place un système d'accueil de la petite enfance. Pourtant, ça crée évidemment des inégalités entre les uns et les autres. Vous parliez évidemment des familles monoparentales. Près de 90% des familles monoparentales sont en réalité des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Mais pas que. Vous avez aussi, parce que les femmes aujourd'hui dans notre pays travaillent, et bien des couples qui, tous les deux, parce qu'on revient aussi aux questions de coût de la vie, etc., ont besoin de faire garder leurs enfants. Ce qui nécessite pour les communes aujourd'hui, évidemment, un engagement extrêmement volontaire, mais qui ne doit pas reposer que sur les choix politiques des communes. Et c'est en ça que l'État, vraiment, pour permettre en fait une égalité et une équité sur l'intégralité du territoire, doit s'engager sur ce sujet-là, parce que derrière, c'est l'accès évidemment à l'emploi, c'est l'accès à la formation, c'est l'accès à l'insertion professionnelle. Lorsque vous n'avez pas de mode de garde et que vous êtes par exemple en période de chômage, eh bien, comment est-ce que vous faites en fait pour trouver un emploi? Vous pouvez pas aller à vos différents entretiens avec le bébé sous le bras. Donc oui, les collectivités, quand elles le peuvent, quand elles en ont les moyens, s'adaptent en permettant parfois d'avoir des créneaux un peu d'urgence, etc. Mais je veux dire, c'est loin d'être suffisant. Et par ailleurs, il faut aussi sortir, je crois, de ce schéma au niveau de la petite enfance du tout crèche. Un service public de la petite enfance, ça passe aussi par la valorisation du métier des assistantes maternelles. On a la chance d'avoir des professionnels, là encore, dans nos territoires et partout en France, qui sont vraiment des professionnels de la petite enfance, de l'accueil de nos enfants, de nos jeunes enfants, qui sont accompagnés par les départements. Il y a la nécessité aussi pour l'État, eh bien, de coordonner en fait aussi la formation de et l'accompagnement en tout cas de ces assistantes maternelles. Et puis de former. Vous savez, aujourd'hui, dans ma ville, mais comme dans beaucoup d'autres villes, on se heurte aussi à la problématique de candidature, notamment pour des auxiliaires de puériculture dans les crèches. Non pas qu'il n'y ait pas de volontaires, mais comme en termes de formation, bien les choses ne vont pas assez rapidement par rapport à la demande, eh bien elles se retrouvent en situation en vérité de compétition. Les territoires se retrouvent en situation de compétition, et donc ça va être le territoire qui va être en capacité de payer plus, et bien qui va avoir le plus d'auxiliaires de puériculture. Et donc avoir un service notamment de crèche qui sera le plus développé. Donc là aussi, il y a des garde-fous à mettre par le biais de la formation, en allant évidemment et bien populariser aussi ces métiers-là qui sont des métiers formidables. Ça passe aussi par les questions de rémunération, je l'évoquais en début d'entretien. Donc tout ça mis bout à bout fait que oui, on a besoin d'un vrai service public de la petite enfance qui soit coordonné.
Le 25 novembre aura lieu la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes, un sujet qui vous tient à cœur et auquel vous êtes aussi confronté en tant que mère. Il y a des progrès depuis quelques années, comme le bracelet anti-rapprochement. Les policiers ont été sensibilisés à l'accueil des victimes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire baisser davantage les violences contre les femmes? Est-ce qu'Anne Hidalgo a des propositions en ce sens?
Je crois que la problématique de lutte contre les violences faites aux femmes, là encore, est un combat républicain. Il faut que, au-delà d'une simple grande cause nationale, il faut qu'on en fasse vraiment une préoccupation sociétale de tous les instants. Il faut, comme ce qui s'est passé en Espagne, un véritable sursaut républicain, sursaut populaire sur ces questions-là. Il faut investir massivement. Les associations parlent du milliard contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qu'un milliard dans le vaste budget de l'État si cela permet de sauver des vies, et non seulement des vies de femmes, mais aussi, quand on connaît un peu le détail des violences intrafamiliales, des vies d'enfants, parce qu'ils sont également évidemment victimes de ces violences. Il faut pouvoir mettre en œuvre en urgence l'accueil de ces femmes lorsqu'elles sont victimes de violences. L'accompagnement de ces femmes lorsqu'elles sont victimes de violences. Il faut évidemment qu'il puisse y avoir un suivi de peine qui soit extrêmement strict. Vous l'avez dit, nos policiers sont aujourd'hui formés dans une grande majorité. Les collectivités ont aussi un rôle à jouer au niveau notamment, vous savez, de tous les accueils du public, au niveau de nos policiers municipaux. Il faut qu'il puisse y avoir à un moment donné des détections qui soient faites très en amont pour que nous n'arrivions pas à un stade où des meurtres pourraient être commis. Encore une fois, il y a des évolutions parce que, oui, le bracelet anti-rapprochement, oui, le fait aujourd'hui qu'on parle de ces violences, les mouvements, notamment MeToo, ont permis aussi une libération de la parole. Lorsque le mot féminicide rentre dans l'expression populaire, oui, il y a aussi une prise de conscience. Sauf que ce chiffre, il continue de s'égrener. Tous les un jour et demi, une femme continue de mourir dans notre pays, sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon, parce que nous n'avons pas pu détecter plus tôt, parce qu'elle n'a pas pu libérer sa parole, parce qu'elle n'était peut-être pas en confiance, parce qu'il n'y a pas eu l'encadrement nécessaire autour du conjoint ou de l'ex-conjoint qui était violent, parce qu'on n'a pas pu mettre en sécurité cette femme, parce qu'encore une fois, lorsque vous dites à ces femmes que nous n'avons pas de logement d'urgence, nous ne pouvons pas les accueillir, les associations sont saturées et qu'il leur faut appeler le 115 parfois avec des enfants, elles préfèrent rester à la maison plutôt que d'aller effectivement se retrouver dans des zones où elles se sentiraient encore en insécurité. C'est monter vraiment tout ce système autour de cet accompagnement et derrière, c'est permettre aussi aux femmes de pouvoir se reconstruire en leur donnant une forme de priorité sur la question aussi de l'accès au logement. Parce que lorsqu'elles doivent changer de ville, changer de territoire, changer de région, qu'elles doivent tout recommencer, il doit pouvoir y avoir des politiques publiques qui sont adaptées. Tant que nous n'aurons pas fait tout ce travail-là, eh bien, les femmes préféreront continuer de prendre des risques parfois pour leur vie, de subir des violences, de subir une emprise, parce qu'elles ont tout simplement peur de l'après. Et c'est ça, c'est cette fatalité contre laquelle il faut que nous puissions lutter, et c'est contre cette fatalité qu'Anne Hidalgo s'engage, parce que nous n'en ferons pas simplement une grande cause nationale qui nous permettra de faire de la communication. Il y a la nécessité derrière d'investir massivement.
Dernière question, rapidement, la gauche est divisée. Selon les sondages, aucun candidat de gauche ne serait qualifié pour le second tour. Anne Hidalgo plafonne à 5%. Qu'est-ce qui peut changer la donne, selon vous, Nadège Azaz?
Je pense, Pierre-Louis, qu'on est actuellement sur le temps des projets, qu'on est sur le temps des programmes, qu'on est sur le temps de la rencontre, on le disait tout à l'heure, avec les territoires, avec nos habitants. Moi, je ne crois pas que ce soit les sondages qui fassent l'élection, et heureusement d'ailleurs, parce que vous imaginez sinon quel serait le sens qu'on donne à notre démocratie. Je crois aussi que les Français, dont la préoccupation principale reste leur pouvoir d'achat, c'est ça aujourd'hui qui est leur préoccupation, c'est comment ils font pour vivre dignement de leur salaire, comment est-ce qu'ils font pour accéder à l'emploi, comment est-ce qu'ils font pour accéder au transport, comment est-ce que nos enfants ont accès à une éducation, demain à des études s'ils souhaitent en faire, qui soit quelque chose de performant, comment est-ce qu'on rétablit l'égalité dans tous nos territoires, quels qu'ils soient. C'est ces questions-là qui sont prioritaires. La gauche, en tout cas la gauche de gouvernement, ce que porte le Parti Socialiste, ce qu'a toujours porté le Parti Socialiste en termes d'égalité, de justice sociale, mais aussi de transition écologique, parce que c'est aussi un problème qui nous concerne tous, je crois que nous avons la possibilité d'apporter des réponses claires, concrètes, et ne pas simplement rester, voyez, sur l'écume des jours sont des sujets totalement outranciers et parfois bien déconnectés de ce que vivent les Français au quotidien.
Merci Nadège Azaz. Je rappelle que vous êtes maire socialiste de Châtillon, conseillère régionale d'Île-de-France et porte-parole de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo. Bonsoir.
Grand merci à vous, cher Loïc Barrière. Au revoir.
Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.